Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut les gars, avant toute chose, je voulais m'excuser pour le retard de l'arrivée de l'épisode. Je sais pas si vous avez remarqué ou si vous vous en foutez, mais l'épisode a quand même 2 semaines de retard. C'est tout simplement parce que j'étais trop occupée, il y a plusieurs choses qui me sont tombées dessus, et du coup je m'excuse à genoux. Vous le voyez pas, mais je suis à genoux. Et je vais essayer de régler le problème de l'emploi du temps. En attendant, je vous présente l'affaire Alfred Petit ou l'affaire du tueur en cavale. On ne sait pas grand-chose de l'enfance d'Alfred Petit, qui est né le 16 juillet 1965 à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né dans une famille assez particulière. Déjà, son père s'appelle aussi Alfred, donc je sais pas, moi j'aurais mis un junior derrière ou un truc comme ça, genre Alfred le second. Mais bon, bref. Non seulement son père s'appelle aussi Alfred, mais sa femme, donc la mère d'Alfred Junior, s'appelle Victoria, et sa fille aussi. Donc on a 2 Victoria et 2 Alfred, ils sont vraiment, mais vraiment pas foulés au niveau des noms. Hein. Comparé à ça, les gens qui veulent faire commencer les noms de leurs enfants par les premières lettres identiques, c'est du pipi déjà à côté, vraiment un niveau de flemme assez violent. En parlant de violence, oh je suis trop forte. Le Alfred Senior, c'est un ex-CRS violent et strict, au point de contrôler l'utilisation de la chasse d'eau chez lui. Alors je sais pas comment ça se passait, si il attendait devant la porte alors que quelqu'un était dans les chiottes, ou alors s'il était sur son canapé, qu'il entendait la chasse d'eau et qu'il montait vérifier que pas beaucoup d'eau avait été consommée. Ça, je sais pas, j'ai pas eu ce niveau de détail. Alfred Senior est aussi paranoïaque et complotiste. Il est persuadé que toute la terre lui en veut parce qu'il a travaillé dans les forces de l'ordre. Le gars, il était déjà dans un mood gilet jaune alors qu'on était dans les années 70, quoi. Un futuriste. Donc, malgré ça, ou à cause de ça, je sais pas, Alfred Junior, il grandit avec une haine des hommes en uniforme. Que tu sois policier, pompier, médecin, si t'as un uniforme, c'est fini pour toi. C'est peut-être d'ailleurs à cause de cette haine qu'Alfred Junior tombe tôt dans la délinquance. En effet, à 19 ans, donc en 1984, il braque un collègue pendant son service militaire. Donc déjà, c'est assez chaud, hein. Moi, je pensais qu'il allait commencer par voler des bonbons à la boulangerie, mais non, le gars, il attend d'avoir un flingue dans les mains, quand même. Mais 2 ans plus tard, il tire une balle dans le ventre d'un gendarme qui sera grièvement blessé. On n'a pas les circonstances exactes de la dispute qu'il y a eu à voir ou quoi. Je sais pas s'il est juste sorti, il a tiré sur un gendarme ou si c'était pendant un contrôle routier. Mais, en tout cas, il a tiré dans le ventre d'un gendarme. Voilà. Et pour cette attaque, il prend 15 ans de prison. Et à la 3e année de sa peine, il prend un garde en otage et il s'évade. Ouh, du calme. Camomille, pose-toi un peu dans ta cellule, je sais pas, explore les alentours. Bref. Il est rapidement rattrapé et il prend 10 ans supplémentaires. Je sais pas si ça valait le coup, faudrait peut-être demander à quelqu'un qui s'est évadé, est-ce que ça vaut le coup de prendre 10 ans de plus ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? Peut-être que la bouffe à la cantine est bonne maintenant ? Je sais pas. Alors, au bout de quelques années, on commence à lui donner des permissions de sortie. Pour un détenu aussi violent, c'est assez questionnable. Et à Pâques 2001, il obtient une troisième permission de sortie, c'est sa troisième, pour aller voir ses parents, alors qu'il a interdiction de les voir parce que ceux-ci sont considérés comme nuisibles à sa réinsertion. Là-dessus, je suis d'accord, mais pourquoi personne n'a fait gaffe, en fait ? Parce que le gars, il a dit « Je vais aller voir mes parents !» Et le garde a juste dit « Ok, tiens, les clés, on t'a loué une voiture, va voir ce qui peut nuire à ton comportement. » J'ai tellement de questions, là. Donc, comme vous vous en doutez, il revient pas de cette permission, et un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Et si vous attendez un bail de course-poursuite à la Fast and Furious, vous allez être déçu, parce qu'après l'émission de ce mandat d'arrêt, personne le cherche, en fait. Genre, ils ont mis sur papier, oui, il s'est évadé, oui, il faut le chercher. Et après, ils se sont assis, ils ont pris un café. Du coup, Alfred, qui est pépère dans sa cavale, il rend visite à ses parents. normal et cambriole son oncle, questionnable, et il se met à errer à pied comme ça dans les environs de Mont-Saint-Aignan, et notamment à Saint-Jacques-sur-Darnétal. C'est le lieu où, alors qu'il est qu'à quelques kilomètres de la maison de ses parents, il va commettre un double meurtre dans la nuit du 17 au 18 mai 2001. Tôt le matin, le 18 mai, un routard découvre une grange en feu à Saint-Jacques-sur-Darnétal. Naturellement, il appelle les pompiers, qui arrivent avec les gendarmes, ce qui fait sortir les voisins, et il y a une petite cohue, du coup, devant l'épave de la grange. Et dans cette grange, on retrouve une voiture calcinée, un cheval mort et un cadavre humain. On dirait le début de la pire blague du monde. Alors, le cadavre est identifié comme étant le cadavre de Jean-Jacques Roussel, un ingénieur de 53 ans. Il a été tué avec un fusil de chasse alors qu'il s'occupait de ses chevaux. Et déjà, rien que le fait qu'il y ait un fusil... Il y avait beaucoup trop de fusils de chasse en France à une époque, hein. Parce que le 22 l'orifle, on connaît au bout d'un moment sur le podcast pourquoi c'était livré avec la maison ou... Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos chevaux apparemment. Alors lorsque les policiers partent annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme, Danielle, ils se rendent compte que celle-ci est introuvable et que son dernier signe de vie date de 21h la veille. Donc ils la recherchent, mais ils la recherchent en tant que suspecte parce que on peut pas vraiment leur en vouloir. Les époux sont souvent les coupables dans les affaires de meurtres comme ça, passionnés on va dire. Alors, le 20 mai, on retrouve la voiture du couple, et surprise, elle est conduite par Alfred Petit, et comme il aime bien braquer des flingues, apparemment, il braque les gendarmes en face de lui, avec un fusil, et dit « Si tu bouges, je te plombe, je te bute ». Je pense que le fait qu'il ait sorti un fusil envoyait déjà le message. Mais bon, c'est bien qu'il l'ait communiqué verbalement, au moins la situation est claire, ça évite la confusion. L'un des gendarmes s'avance vers lui, et quand Alfred se dit « bon, bah je vais tirer du coup », bah le coup il part pas. Eh ouais, la balle elle a dit « non, c'est pas mon jour de travail, c'est pas un jour de semaine déjà, donc moi j'ai posé mes RTT, on les respecte ». Donc le gendarme arrive à le désarmer, mais il arrive quand même à s'enfuir. Mais dans l'agitation, Alfred a perdu son écharpe. Et dans la voiture, les gendarmes retrouvent une parka, un sac de vivres et la permission de sortie d'Alfred qui est évidemment à son nom. Le gars a cru qu'il partait en camping, quoi. Le coffre, il est ouvert et les gendarmes découvrent qu'il est maculé de sang et qu'il contient un gland. Oh mon Dieu! Elsa, sors ton âme du caniveau, s'il te plaît. Ce n'est pas un gland, c'est un gant. Il retrouve un gant qui est aussi ensanglanté. Donc, enfin, les gendarmes ordonnent la recherche d'Alfred et organisent des battues pour retrouver Daniel Roussel, qui du coup n'est plus une suspecte, mais une potentielle victime. Le 21 mai, donc le lendemain, Alfred est arrêté près de la maison de ses parents et étonnamment, il se défend pas. Il sort pas de flingue, il essaie pas de mordre, il essaie pas de se débattre. Il suit les gendarmes comme un gentil petit toutou. Le problème, c'est que une fois dans la salle d'interrogatoire, le gars se mure dans le silence. Tout ce qu'il dit, c'est « j'ai rien fait, je sais pas de quoi vous parlez, je suis innocent ». En boucle. Imaginez ça en boucle pendant plusieurs heures. Le truc, c'est que le lendemain, donc le 22 mai, le corps de Daniel Roussel est retrouvé démembré et sa tête est introuvable. L'autopsie permet quand même de déterminer qu'elle est morte par coup de feu et que son tueur l'a aussi poignardé. Son ADN est retrouvé dans le coffre de sa propre voiture, ce qui explique tout le sang, et aussi sur le pantalon d'Alfred, ce qui complique un peu les choses au niveau du « je suis innocent ». Mais il continue quand même. Il continue de dire « je suis innocent, j'ai rien fait, papapapapapa », et il sait pas comment cet ADN a atterri sur son pantalon. Bref, il essaie de nous faire avaler des couleuvres. Et il refuse de se soumettre aux analyses médico-légales. Son ADN est prélevé quand même, parce que c'est pas la foire ici, et il correspond à celui retrouvé sur un gant à la grange. Et On arrive à déterminer que le fusil qu'il a utilisé est celui qu'il a volé à son oncle, rappelez-vous, au début de sa cavale, quand il partait en balade. S'ajoute à tout ça le fait que plusieurs témoins l'ont vu rôder dans le quartier où habitaient les Roussel. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'éléments, hein, qui démentent le « je suis innocent ». Alors, 10 jours après le double meurtre, une marche blanche est organisée pour rendre hommage au couple et réclamer plus de rigueur concernant les récidivistes. En même temps, c'est clair qu'après une affaire comme celle d'Alfred Petit, t'es pas forcément du côté de la réinsertion, etc. Une pétition récolte plus de 4000 signatures et le ministère de la Justice lance une enquête. Et comment se défendent les autorités judiciaires qui sont soumises à cette enquête ? Bah, ils disent qu'ils n'ont rien vu venir parce que les permissions précédentes d'Alfred s'étaient bien passées. Même si le gars vous avait ramené des chouquettes, même s'il vous avait ramené des éclairs au chocolat, même s'il avait payé le prêt de votre voiture, ça, il serait quand même resté un criminel dangereux. Enfin, c'est pas parce qu'il y a eu 2 bons jours que soudainement on peut lui faire confiance. Enfin, c'est une défense bancale, ça. Enfin, bref, je suis en train de m'énerver toute seule. Revenons à l'affaire. Alfred est mis en examen pour les 2 meurtres, mais ne dit toujours rien, et les reconstitutions qui sont effectuées ne donnent rien non plus. Il est condamné à 3 ans de prison pour son évasion, et son procès pour les 2 meurtres commence le 8 décembre 2003 à la cour d'assises de Rouen. Et c'est là qu'il refuse définitivement de fournir le moindre élément, parce que, je cite, « de toute façon, je ne sortirai jamais de prison ». Là-dessus, il a raison. Et le procès promet d'être rocambolesque parce que, qui sait qui aura à côté du banc des accusés ? Alfred Senior. Au début du procès, Alfred Senior est appelé à la barre et il débarque direct en gueulant au complot. En mode, il dit même pas bonjour, il dit « c'est un complot parce que je suis flic, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Vraiment, Alfred Senior, en fait, t'es pas le sujet de la conversation, là. On n'est pas venu ici pour faire ta biographie. Donc, à la limite, c'est pour dire ça, va t'asseoir, hein. Il va même jusqu'à menacer le fils du couple Roussel. Ça, c'est, j'avoue, dans Murder One in Chief, c'est la première fois que je vois le père d'un accusé menacer le fils des victimes, quoi. C'est vraiment un culot, comme on en voit rarement. Sauf que Alfred Senior va vite déchanter parce que des témoins commencent à dire qu'ils ont vu 2 individus s'enfuir de la grange au moment où elle a pris feu. Et le médecin légiste a déclaré que le démembrement de Daniel a été fait par un habitué. Or, Alfred Senior a l'habitude de couper du bétail. Outré face à ces suggestions, il clame son innocence comme son fils, en gueulant dans le couloir du tribunal, en mode « Oh, l'enfoiré !» Bref, un vieux énervé, quoi. C'est vraiment le pire type de vieux, quoi, puisqu'il casse les oreilles pendant 45 minutes. Bref, il est tellement énervé et tellement irrespectueux qu'il se fait sortir de la salle d'audience. Et après la révélation des témoins, le procès est renvoyé pour supplément d'information. Et c'est rare dans les affaires de cette envergure. En général, dans les affaires comme ça, on préfère juger vite. La maison des petits est perquisitionnée, ce qui n'avait pas été fait pendant l'enquête. What ? Bref. La maison des petits est perquisitionnée, et devant tout l'engouement médiatique autour de la possible culpabilité de l'Alfred Senior, celui-ci se suicide le 15 janvier 2004, en laissant une lettre clamant son innocence et celle de son fils. Finalement, l'enfance n'était pas très joyeux, mais ils ont fini par être complices, hein. Prenez ça comme vous voulez. Alfred Junior, furieux, accuse alors la justice et les médias d'avoir tué son père et récuse ses avocats, comme il a l'habitude de le faire depuis le début du procès. Je crois qu'il est passé par 4 avocats au total. Donc, comme les nouveaux avocats n'arrivent pas à construire une défense solide, il est condamné le 11 décembre 2004 à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et il n'a aucune réaction à l'annonce du verdict. Il devait se dire qu'il allait passer le reste de sa vie en prison, donc autant ne pas faire tout un théâtre de cette fin de procès. Bref, il fait quand même appel de sa condamnation et arrive à faire supprimer la peine de sûreté, ce qui lui aurait permis de demander sa libération conditionnelle à partir de 2025 s'il ne s'était pas suicidé en 2009 à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy dans les Yvelines. Alors, c'est certes la fin de l'affaire, mais en même temps, c'est pas vraiment la fin de l'affaire parce que, au final, on saura jamais pourquoi, en fait. Pourquoi il a tué les Roussel. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mobile apparent. Et on dirait qu'il s'est juste levé et il a décidé d'aller buter quelqu'un. Enfin, deux quelqu'un, du coup. Deux parents. Voilà. C'est une affaire qui aurait été vraiment bizarre jusqu'au bout, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'affaire sur Twitter, @mwacpod, moacpod, ou sur le site murderwineandcheese.com. Et n'hésitez pas aussi à faire un petit don pour que je m'achète un nouveau micro parce que ça commence à être chaud. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous retrouverai à la prochaine affaire et je vous souhaite de trouver un billet de 10 par terre. Salut !